Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Comment préparer la grande session de l'examen d'État? On en parle avec David Tambo, il est un psychoéducateur, je pense bien qu'il est déjà en ligne. En fait, s'il n'est pas encore en ligne, on va le retrouver tout à l'heure pour parler de comment bien préparer la grande session de l'examen d'État. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez réagir, je rappelle qu'il faut le faire avec par voice, avec un voice sur au numéro 099-706-9941. Dieu donné Nyangasa, remplacé Pierre Dassino à la mise en nom de Tatima Poukou est bel et bien là. Toujours la réalisation et coordination de ces magazines à la présentation, c'est Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Après les épreuves préliminaires, ça sera en tout cas dans quelques jours la grande session de l'examen d'État édition 2022-2023. Il y a des candidats finalistes qui s'y préparent en groupe. Il y a d'autres qui vont passer à une bonne partie de la préparation de cette grande session de l'examen d'État dans les maquis pour se concentrer. Par ailleurs, il y a des élèves qui comptent sur le phénomène labo pour espérer décrocher un diplôme d'État. Alors, comment bien se préparer pour affronter ces épreuves de la grande session de l'examen d'État édition 2022-2023? On en parle avec David Tambo, il est psychoéducateur, il est déjà en ligne. Monsieur David Tambo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'intervenir depuis Bukavu, de participer à cette deuxième partie du magazine Okapi Service. On parle de comment préparer la grande session de l'examen d'État édition 2022-2023 après les épreuves préliminaires qui ont eu lieu. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a vraiment une façon qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on peut conseiller aux finalistes des humanités de préparer la session de l'examen d'État, puisqu'il y a ceux qui vont le passer à, en tout cas c'est préparé à cette session dans les maquis qui sont organisés dans des écoles. Il y a ceux qui préfèrent rester à la maison mais ils se rencontrent pour travailler en groupe, et il y a également ceux qui ça c'est malheureux, à qui compte le phénomène labo pour espérer décrocher un diplôme d'État. Et comment pensez-vous qu'ils peuvent bien s'y préparer? Oui.
En tout cas, merci beaucoup pour la question. Vous savez que les processus d'apprentissage est appelé, comme je viens de l'appeler, processus, les jours qui restent pour la passation des épreuves sont vraiment, c'est un temps très court, un temps pendant lequel tout élève qui ne s'était pas bien préparé au départ. Le processus, parce que
oui,
l'apprentissage exige d'abord une participation active de l'enfant et une régularité pendant les enseignements qui s'est donné tout au long de l'année. Et prétendre en ce moment ici dire que bon, maintenant je voudrais étudier, que ça soit en maquis ou en groupe, ou même compter sur les labos et prétendre avoir un diplôme, c'est vraiment malheureux, parce que c'est un processus qui se prépare. Les matières qui font l'objet de l'évaluation sont des matières qui ont été enseignées en trimestre, et ces trimestres, par rapport aux enseignants, les matières étaient prévues et les élèves devaient nécessairement les suivre. Aussi, le processus d'apprentissage exige nécessairement un long temps d'apprentissage, de répétition, afin que le matière qui doit objet d'évaluation puisse passer de la mémoire à très court terme vers la mémoire à long terme. Maintenant, ici, les élèves qui se préparent sont dans des conditions très différentes, comme vous venez de le dire. Dans le maquis, c'est vraiment un processus qui a été jugé non valable par le ministère. Je crois que le ministère n'encourage pas le maquis étant donné de nombreux abus. Ceux qui travaillent en groupe, je les encourage à travailler en groupe, mais cependant, il faudra aussi savoir quels sont les avantages du groupe et les inconvénients. Si la structure du groupe ne peut pas permettre que le membre puisse bien apprendre, en tout cas, il sera aussi confronté à des réalités tout à fait négatives. En tout cas, je voudrais simplement dire qu'en ce moment ici, c'est le moment où les élèves intelligents sont en train de revoir les cours qui posaient des problèmes dans leur apprentissage. Et s'ils sont en groupe, ils peuvent poser son problème aux membres du groupe, mais pas n'importe quel membre du groupe, parce que les groupes peuvent se sélectionner de différentes manières. Vous pouvez avoir un groupe qui n'est constitué que des élèves qui ne connaissent absolument rien, et toute question posée par un membre des groupes ne permet pas de trouver une solution efficace. Et les groupes bien constitués peuvent permettre que la difficulté d'un membre du groupe puisse trouver effectivement solution, et le candidat peut être à ce moment prêt à affronter une question de l'examen. Bon, faudra vous oui. dire que maintenant, oui. en ce moment ici, c'est un problème d'estime. Les enfants qui avaient bien appris sont en train de revoir leur matière, que ce soit en groupe, que ce soit justement dans le maquis. Ils ont cette confiance parce que ce qu'ils ont appris, ce sont ces mêmes matières qui vont revenir dans l'évaluation.
Donc si je vous ai bien compris, en fait, cette période, c'est plus une période de révision, de revoir ces matières, parce qu'il faut se préparer déjà à partir du début de l'année scolaire, lorsqu'on est en sixième année des humanités.
Exactement.
Mais alors
c'est un long processus.
Oui. Bah, allez-y, oui.
Je disais que c'est un long processus et il fallait, dès le départ, être sérieux, être régulier, suivre les enseignements. Et maintenant, lorsqu'ils sont en train de revoir, la méthodologie utilisée peut ne pas permettre de comprendre ce qui n'avait pas été bien saisi au courant de l'année.
Alors, s'il faut parler de différentes options, et vous, en tant qu'éducateur, est-ce qu'il y a des options pour lesquelles vous avez peut-être des conseils particuliers à prodiguer aux finalistes? Et par exemple, un finaliste qui fait le latin philo, ou si vous voulez, la section littéraire, par rapport à celui qui fait la biochimie ou bien la section maths physique. Vous avez des orientations particulières que vous pouvez bien donner aux finalistes par rapport aux options suivies?
Oui, les conseils que nous donnons, c'est que chaque section, chaque filière, il y a des matières qui sont considérées comme étant des branches principales, qui constitue en fait la formation de l'étudiant. Même par rapport aux critères de correction, on sait qu'on doit bien réussir dans les cours du domaine. Alors, ceux qui font les différentes sections, nous leur disons simplement d'abord de s'accrocher pour comprendre, bien réaliser de meilleures cotes dans les disciplines fondamentales. Et quand ils maîtrisent bien ces disciplines, et le reste des cours qui vont compléter la formation, à ce moment, les candidats devront être déterminés. Je crois qu'il y a un critère d'évaluation actuellement qui se fonde sur la réussite dans les branches fondamentales.
Ah, voilà,
donc, il faut mettre l'accent sur ça.
Ah, il faut mettre l'accent sur les branches fondamentales. Mais également, un autre constat, c'est il y a des élèves finalistes qui préfèrent en tout cas revoir tout ce qu'il y a eu comme questionnaire de session de l'examen d'état passé, enfin des éditions passées. Est-ce que c'est aussi une bonne façon de se préparer?
Oui, il est vrai, recourir aux anciennes questions, les anciennes questions constituent une ressource. Et on ne peut pas tellement compter sur ça parce que les questions peuvent être modifiées d'une année à l'autre en fonction des objectifs de l'évaluation. mais ces anciennes questions permettent aux candidats de voir par rapport à une matière qui a été enseignée et comment les évaluateurs posent. Mais je crois que on ne peut utiliser ces questions que pour vérifier si réellement on a acquis, on a appris. Et si c'est un exercice pour vérifier les acquis, c'est une bonne chose. Mais que de compter sur ces éléments-là, dire que bon, je n'avais pas assisté au cours, je vais simplement me référer aux questions, trouver les réponses. Mais ces réponses-là ont un sens par rapport à un objectif qui avait été visé par l'enseignant dans le processus enseignement-apprentissage.
Donc, pour chaque édition d'examen d'État, il faut en tout cas essayer de se préparer. Non seulement de ce projet, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est un processus, hein, commencer déjà à se préparer dès les débuts de l'année scolaire, et puis lorsqu'on arrive à quelques jours de la session de l'examen d'État, là maintenant on doit passer on doit revoir ses notes, on doit revoir ses cours, et surtout à bien revoir tout ce qu'il y a comme notion fondamentale par rapport à l'option suivie, hein. Ne faut pas attendre souvent, comme les font d'autres personnes, la dernière minute pour dire qu'on va travailler en groupe ou bien on va aller passer la préparation dans les maquis. Voilà, monsieur David Tamboué, je reviens à vous, hein, pour continuer à aborder ces sujets sur comment préparer la grande session d'examen d'État édition 2022-2023. Je rappelle à tous ceux qui viennent de ce genre d'annonce sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. On est en train de parler de comment préparer la grande session de l'examen d'été édition 2022-2023. Si vous voulez intervenir, faites-nous un voice au 099-706-9941, 099-706-9941.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Voilà, on va passer à... On revient à notre invité avant de retrouver les auditeurs qui pourront réagir par rapport à ce sujet. Dites-nous, monsieur David Tamboué, il y a également ces phénomènes, hein, des mercenaires, c'est-à-dire que des élèves qui se sont pas bien préparés et qui font en sorte qu'à leur place, il y a d'autres personnes qui viennent présenter les examens pour ces élèves. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire à ces sujets?
Déplorable, messieurs les journalistes, d'entendre que dans les centres d'examen, un mercenaire peut y accéder et pourtant les centres ont toujours été sécurisés. Cette pratique est décriée, c'est comme la pratique de laboratoire, complètement décriée parce que ce sont des antivaleurs qui ne sont pas encouragées. Nous sommes en train de penser que de telles choses ne doivent pas arriver dans le centre où les enfants font les examens. Ce que nous demandons aux enfants, c'est d'augmenter leur estime de soi et de comprendre que les cours qui ont été enseignés dans les classes, et ce sont ces mêmes matières qui doivent nécessairement être évaluées en fonction des objectifs. Il n'y a pas un écart des questions qui viennent aux examens d'État et les questions des branches qui sont constituées, qui...
Il y a quelques...
Ces mêmes objectifs.
D'accord, là c'est bon, oui.
Qu'un enfant fait parvenir un mercenaire, c'est vraiment une antivaleur que nous ne pouvons pas encourager. Il faudrait simplement que l'enfant ait le courage d'affronter et d'augmenter son estime de soi. Et c'est ce qui doit être comme conseil à donner aux enfants qui doivent se présenter. Pas d'amener le mercenaire. C'est vraiment prohibé et on ne peut pas entendre cela deux fois dans un centre, même ailleurs, même à l'intérieur.
Il y avait quelques perturbations au niveau de la ligne, mais je pense que l'essentiel, vous l'avez dit, c'est ces enfants puissent augmenter l'estime de soi. Et vous, vous êtes psychoéducateur, si on va parler de d'augmenter l'estime de soi. Et qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil pour augmenter cette estime de soi? Peut-être qu'il y a des enfants qui, tout au long de l'année scolaire, il y a peut-être certaines matières pour lesquelles ils ont eu des difficultés, et comment à ces moments ils peuvent vraiment augmenter ce dont vous parlez, cette estime de soi pour espérer faire de bons résultats.
En fait, actuellement dans les écoles, lorsque les difficultés d'apprentissage se présentent, des élèves en difficulté. Je crois que c'est ça.
Il y a quelques perturbations avec la ligne téléphonique de notre invité. C'est, en tout cas, il est en train d'intervenir sur WhatsApp. J'espère que ça va s'améliorer. Monsieur David Tambo est là, vous me suivez? Il me semble qu'il n'est plus en ligne. On va le retrouver tout à l'heure. La réalisation va s'y affairer. On est donc en train de parler du comment préparer la grande session de l'examen d'été édition 2022-2023. Vous avez suivi avec notre invité qui est psychoéducateur. Il faut vraiment, vraiment se dire que la session d'examen d'État se prépare pas en dernière minute. Il faut déjà, dès les débuts de l'année, se mettre au travail, être assidu pour espérer en tout cas bien passer cette session. Et puis pour ceux qui ont été assidus, c'est le moment de revoir les matières fondamentales de l'option que vous avez suivie, et aussi de travailler. Si vous pensez le faire en groupe, c'est tant mieux, mais il déconseille pour tous ceux qui vont faire préparer dans le maquis, bien souvent le résultat ne sont pas toujours à ceux attendus, hein, lorsqu'on va se préparer dans les maquis. Puis il a découragé tous ceux qui comptent au phénomène labo, encore au phénomène mercenaire. Donc le plus important, c'est vraiment, vraiment de rester assidu tout au long de l'année et de se mettre au travail. Et surtout, encore, il vient de le dire, d'avoir vraiment, d'augmenter l'estime de soi, de croire en ses capacité de passer dans de bonnes conditions cette session de l'examen d'été édition 2022-2023.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bah, chers auditeurs, on va insister à ce numéro 09 76 99 40. Il faut pas appeler, il faut plutôt juste faire un voice. Lorsque vous appelez, ça perturbe la ligne, on sait pas suivre ceux qui passent à l'antenne. J'insiste au 09 76 99 41. Si vous voulez intervenir, n'appelez pas, faites plutôt un voice, juste un voice. Et puis on va vous faire passer sur nos antennes. Voilà, on fait signe qu'il y a un auditeur qui va se présenter, je l'espère, qui nous a fait un message WhatsApp à ce numéro 09 76 99 41. On va l'écouter.
En ce qui concerne le sujet que vous avez attaqué aujourd'hui sur la préparation des finalistes aux examens d'État, je pense qu'ici, les enfants sont plus concentrés sur l'effectivité au lieu de se donner à préparer les matières qu'ils ont vues avec leurs enseignants dans des salles de classe. Nous pensons que le gouvernement devrait faire tout et que les inspecteurs devraient vraiment travailler avec rigueur pour éviter les erreurs que nous avons constatées les années antérieures. Je pense que les parents sont là pour préparer les enfants d'une manière ou d'une autre, mais c'est aux éducateurs, aux personnel qui intervient dans ce secteur de tout faire pour mettre de côté les antivaleurs qui ont vraiment pris de l'ampleur dans notre sous-secteur.
Je voudrais remercier à cet auditeur qui a préféré parler à sous couvert de l'anonymat. Voilà, il a parlé revenus sur le fait qu'il faut se préparer par rapport à cette édition de l'examen d'État 2022-2023. Notre invité n'est pas encore en ligne. J'espère qu'on va le retrouver. Et en attendant de retrouver notre invité, on va souffler un peu en musique. Voilà, on fait signe qu'il est de nouveau en ligne. Monsieur David Tambo, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, oui, je suis en ligne, je vous suis correctement.
Ah d'accord, c'est bien. Alors, vous avez suivi l'intervalle, il y a un auditeur qui a préféré parler sous couvert de l'anonymat, qui est revenu sur le fait que, sur ce que vous avez dit, qu'il faut absolument se préparer et ne pas attendre la dernière minute. Alors moi, je parlais plus de l'estime de soi parce que vous êtes psychoéducateur. Si vous voulez bien revenir pour dire un peu, enfin conseiller un peu à tous ces finalistes comment augmenter l'estime de soi.
En fait, ce qui peut être fait, j'ai suivi l'intervention de notre collègue qui vient d'intervenir. Il invite tous les partenaires du domaine de pouvoir intervenir pour encadrer les enfants. En fait, l'estime de soi des élèves ne peut augmenter que lorsqu'on leur dit que les matières qui vont faire l'objet de l'examen sont des matières qui ont été enseignées. Et à ce moment, l'enfant a foi, a confiance en ce qu'il a appris, et lorsqu'il est en train de préparer cela, et il croit en ce qu'il va affronter l'examen et il va avoir de bons résultats, c'est ça qui va effectivement augmenter son estime. En fait, l'estime de soi, c'est la confiance que l'enfant doit avoir de ce qu'il a appris et considérer que tout ce qu'il a comme bagage, ça va lui permettre d'affronter l'examen d'État sans trop de difficultés. Et c'est ça que nous demandons, comme notre collègue venait de le dire, que les parents, que les autres enseignants qui continuent à encadrer les élèves en ce moment puissent dire aux élèves que les matières de l'examen ne viendront pas, ne seront pas tirées ailleurs, tirées dans les matières qui ont été enseignées. Et c'est ça qui va augmenter l'estime des élèves à l'examen.
Est-ce que dans votre profession de psychoéducateur, est-ce qu'il y a des parents ou peut-être de responsables des écoles qui, de fois, recourent aussi à vos services, c'est-à-dire de passer dans une école et parler avec des finalistes pour leur dire un peu et comment on peut se préparer pour l'édition de l'examen d'État, pour passer les épreuves de l'examen d'État.
Oui, dans nos services, nous avons effectivement de messages que nous donnons aux chefs d'établissement et même aux élèves. Ce que nous faisons habituellement, c'est d'abord faire comprendre que les matières qui ont été enseignées en fonction d'un programme. Alors, il faut nécessairement que les enseignants enseignent en fonction du programme en vigueur. Et lorsque nous conseillons déjà aux enseignants de pouvoir élaborer leurs prévisions de matières en fonction du programme en vigueur, c'est déjà une ligne droite tracée vers la réussite des élèves. Parce que deux fois, il y a une certaine maladresse lorsque les questions qui sont posées se retrouvent dans un programme autre que celui qui a été mis en application dans les écoles. Et c'est ce qui fait perdre aux enfants cette confiance et cette estime de soi dont il est question dans la question que vous veniez de me poser. Je crois que si tout est concordant, parce que c'est une évaluation, l'évaluation nécessairement doit être valide. Et la validité d'une évaluation, c'est d'abord les liens qui doivent être établis entre les objectifs qui étaient visés. Donc l'examen d'État a des objectifs. Quels sont ces objectifs? Quels sont les contenus de matière qui ont été enseignés aux enfants? De sorte que les questions qui doivent être posées soient en lien étroit avec les contenus de matière en fonction des objectifs.
Voilà, on va voilà lire... ce qui... Voilà, on va lire cette réaction sur cette réaction d'un auditeur qui n'a pas écrit et qui n'a pas précisé comment il s'appelle, encore moins d'où il nous écrit. Et il nous écrit ceci: les élèves ne se donnent plus aux études parce qu'ils ont plusieurs façons de réussir. Pendant les épreuves, ils corrompent les surveillants et font sortir les questionnaires via les téléphones et leurs enseignants résolvent pour eux. Votre réaction, monsieur David Tamboué?
Oui, cela a été dénoncé comme une antivaleur. Vraiment une antivaleur qu'il ne faut pas vraiment privilégier dans un système comme le nôtre. Nous devons tendre vers la qualité du travail. Entendre que dans un centre, on autorise aux enfants d'amener des petits téléphones ou même que les surveillants puissent s'engager à répondre à la place des enfants. Je crois que dans l'organisation des examens, ne sont admis à la surveillance que des candidats n'ayant pas le niveau de diplômé d'État. Je crois que à l'époque, les critères de recrutement des surveillants se fixent sur des gens qui ne peuvent pas avoir la capacité de répondre aux questions. Et puis aussi, on donne des exigences. Aucun enfant ne peut entrer dans la salle d'examen avec un téléphone ou même une montre. Il y a des montres qui ont des données directement téléphoniques. À ce moment, tout cela est prohibé. Et je pense que dans l'organisation, on doit tenir compte de ça. Et je crois que le chef de centre et tous les surveillants qui sont recrutés seront informés par rapport à ces exigences. Parce que ce sont des antivaleurs qui ne peuvent pas dominer dans le milieu scolaire.
Donc, il faut donc combattre ces antivaleurs dans le milieu scolaire et surtout lorsqu'il s'agit de Exactement. Présenter les épreuves de l'examen d'État. Alors, s'il faut parler un peu de ces élèves qui certainement sont en train de vous écouter, mais ils pensent que pour eux, à compte tenu de la manière avec laquelle ils ont passé toute l'année scolaire, ils estiment qu'il n'y a pas autre chose à faire qu'en tout cas de chercher à recourir au phénomène labo ou bien à chercher à corrompre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces élèves qui sont toi déterminés à se comporter de cette façon-là puisqu'ils estiment que tout au long de l'année scolaire, ils ne se sont pas bien appliqués?
Bon, en principe, voyez, le phénomène laboratoire, en tant qu'antivaleur, nous ne pouvons pas l'entendre ici. Nous avons besoin simplement que les enfants puissent compter sur ce qu'ils ont appris. Et s'ils ont perdu le temps pour compter à cela, il faut maintenant analyser les conséquences qui peuvent surgir au cas où, par exemple, si la surveillance a été très rigoureuse et que les réponses attendues n'arrivent pas, alors c'est l'étudiant qui perd. C'est pourquoi nous leur demandons exactement de pouvoir compter sur leurs forces. Ils ont ces capacités-là. Les élèves sont intelligents. Et nous leur demandons simplement de pouvoir mettre en pratique leur intelligence pour réussir. Ne pas compter sur les antivaleurs parce que le contrôle va être rigoureux et on ne peut pas permettre au centre d'examen que, à l'ouverture même des malles d'examen, qu'il y ait fuite. Parce que, exactement, lorsque vous parlez de phénomène labo, c'est qu'il faut que les malles soient ouvertes et puis qu'il y ait fuite des questions à l'avance. Alors, ça, ce sont des antivaleurs. Il faut remonter dans la hiérarchie pour voir à quel niveau cette fuite peut se faire. Mais lorsque les autorités s'en saisissent des cas pareils, je crois qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Nous devons simplement dire à nos élèves de pouvoir compter sur leur propre effort et de regarder dans la direction des valeurs et non des antivaleurs.
Voilà, il y a aussi un autre constat qui est souvent fait, et là nous sommes en train de parler de cette période qui précède la session proprement dite hein, de l'examen d'État, mais là des fois aussi ce qui se remarque, il y a des élèves après la première journée, hein, surtout lorsqu'on a fait peut-être, on estime qu'on n'a pas bien passé la première journée de cette session de l'examen d'État. Il y a beaucoup qui se découragent dès la première journée. On a comme l'impression qu'on n'a pas bien répondu aux questions, qu'on n'a pas bien travaillé, alors que c'est seulement la première journée. Et qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, ceux qui sont découragés dès déjà la première journée parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas bien travaillé?
En principe, nous demandons aux élèves de ne pas se décourager. Les épreuves sont réparties en 4 jours, en fonction des disciplines qui sont considérées dans cette évaluation. Alors, si il serait remarque, par exemple, qu'en culture générale, les choses n'ont pas bien marché. Alors, nous demandons à l'étudiant de continuer à compter sur ses efforts dans les cadres, par exemple, dans les disciplines fondamentales. Et il peut aussi bien se présenter et récupérer ce qu'il a perdu dans la culture générale. Donc, ce que nous demandons, c'est de ne pas perdre le courage parce que les examens sont vraiment répartis en 4 jours. Et cette répartition est aussi valable. Si vous vous découragez le premier jour, ça risque d'entacher tous les autres jours qui restent, alors qu'il y en a 4. Donc c'est bien de serrer la ceinture et de comprendre que ce qui est arrivé aujourd'hui n'arrivera pas dans telle ou telle autre discipline prévue dans les évaluations. Donc j'encourage les élèves à ne pas se décourager, même si les questions de la première journée n'ont pas été bien répondues. Alors ils doivent continuer à compter sur le reste et ils vont toujours parvenir à bien travailler.
Voilà,
je crois que c'est ça qu'il faut leur dire. Et aussi, j'avais une idée de penser aussi, tenter un peu de décourager les élèves qui pensent que parce que nous sommes dans une année électorale, peut-être les choses peuvent être revues autrement. Je crois que cette pensée aussi est à supprimer parce que des fois, les enfants pensent quand il y a une année électorale, on croit que on va être trop salutaire à eux et on laissera passer tout le monde. Je crois que cette tendance est à éviter dans la conception des élèves.
Voilà, on va lire cette longue réaction de James Mwabilo qui nous écrit depuis Lubumbashi. J'ai tenté de résumer parce que c'est vraiment une très très longue réaction. Il dit par exemple, à mon humble avis, je pense que c'est un cas mixte. Premièrement, l'élève candidat à l'examen d'État qui a appelé à relire ses cours en vue de mieux se préparer à affronter la grande session qui pointe à l'horizon sans compter sur le système labo. Et puis, il parle également des parents qui ont la chance de garantir les moyens financiers à leurs enfants pour leur permettre d'apaiser l'esprit et d'être sûr qu'ils sont réellement de la partie à cette session. Car si l'enfant ne voit pas les parents se mobiliser pour lui rendre la tâche facile au point de vue financier, certains se découragent au point de ne même pas revoir ses leçons assidûment. Et puis, il parle également du chef d'établissement qui doivent abandonner les phénomènes labo qui fragilisent non seulement les futurs diplômés, mais également l'État qui sera en train de se remplir que des hommes incapables de défendre leur cursus scolaire. Voilà. Donc lui, il pense que il y a d'abord l'élève lui-même qui doit mieux se préparer pour affronter ces épreuves, l'examen d'État, mais également les parents qui, pendant cette période, doivent mettre de moyens de façon que l'élève finaliste se sent à l'aise. Et puis il parle également même des enseignants qui doivent aussi tout faire pour essayer d'éviter ces phénomènes labo. Donc vous pensez que qui ce soit l'élève, qui ce soit l'enseignant, qui ce soit les parents, tous ces gens ont un rôle à jouer?
Oui, je crois bien. Bon, pour les parents actuellement, en termes de moyens financiers, les parents ont déjà payé. Je ne crois pas qu'il y ait encore un parent qui puisse avoir une dette de l'école en ce moment ici. Les enfants ont été évalués en fonction d'une rigueur par rapport aux moyens financiers. Maintenant, là, tous les parents ont déjà payé, mais leur responsabilité, c'est de veiller à la prise en charge correcte, nourrir l'enfant, veiller à sa santé jusqu'à la veille des examens et même pendant les examens, les parents doivent surveiller, savoir à quel moment l'enfant va prendre son repos, à quel moment il va dormir. Je crois que les parents ont cette responsabilité-là. Mais ce que nous pouvons dire aux enseignants, les enseignants ont déjà fait le travail, ils ont enseigné et maintenant que les élèves veulent aller se présenter à l'examen, et la manière dont les élèves vont se présenter, ça sera aussi une évaluation par rapport à ce que les enseignants ont enseigné. Ils doivent rester, je crois, calmes dans leur milieu parce qu'ils ne sont pas appelés à aller dans les centres d'examen. Ils doivent simplement souhaiter bonne chance à leurs élèves. Ils ne peuvent plus mettre leurs pieds au centre parce que nous n'avons pas besoin qu'ils soient trouvés dans les antivaleurs. Ils sont enseignants, ils sont d'une bonne moralité. Et ils ont été motivés, payés tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, je ne crois pas qu'un enseignant puisse encore se permettre en ce moment de pouvoir fouler ses pieds au centre d'examen pour aller cultiver les antivaleurs. Or, l'enseignant, qui doit être une personne qui doit lutter contre ces antivaleurs-là, même dans la formation des élèves. Et ça, exactement, c'est ce que nous leur disons. Les élèves eux-mêmes ont cette responsabilité aussi. C'est de comprendre que ce sont eux ce qui les enseignants et les familles comptent. Et si ils prennent cette responsabilité de croire en leur force, en leur capacité de bien faire, je crois que ils vont affronter les examens sans trop de craintes et de difficultés.
Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de comment préparer la grande session de l'examen d'État édition 2022-2023 avec Monsieur David Ntambou, il est psycho-éducateur. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous faire un voice. J'insiste, n'appelez pas, faites un voice. Au 099-706-9941, je répète, au 099-706-9941. Nous avons déjà, nous avons en ligne une auditrice dédicacée. On va l'écouter. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. J'ai une préoccupation à propos d'une école de dédicacée. Là, on voit beaucoup d'élèves quitter différentes provinces pour aller présenter les examens dans cette école, sous prétexte que c'est une école, je ne sais pas, où il y a des inspecteurs qui leur donnent des questionnaires avant les épreuves. Qu'y a-t-il au juste? Qu'est-ce qui se passe dans cette école? Pourquoi y a-t-il des diplômes faciles dans cette école?
Merci à cette auditrice d'avoir appelé de Nick Cassie. Monsieur David Ntambwe, je pense que vous avez suivi. Est-ce que c'est des choses qu'on peut pas tolérer? Ça c'est connu. Là, elle n'a pas cité les noms de l'école, mais il semblerait que c'est une école où les inspecteurs facilitent bien des choses aux finalistes, ce qui fait qu'il y a vraiment un engouement. Des élèves qui viennent dans cet institut pour espérer avoir un diplôme d'État, semble-t-il, parce qu'il y a des inspecteurs qui essaient un peu de faciliter les choses. Comment vous réagissez?
Oui, je pense que cette réalité de l'ICACI n'est pas seulement l'ICACI. Dans toutes les provinces, il y a toujours des écoles pareilles, des écoles où les enfants ont l'habitude d'aller s'inscrire nombreux et à la fin ils se retrouvent avec plusieurs réussites, plusieurs diplômes, et c'est une réalité qui n'est pas simplement à l'ICACI, elle se rencontre aussi dans d'autres provinces, mais le mal c'est que cette réussite qui se fixe sur les antivaleurs, avoir des inspecteurs qui livrent déjà des questions aux enseignants pour les résoudre et donner des réponses aux élèves. Alors, il faudra maintenant que les services de sécurité, qu'on puisse savoir à quel moment ces inspecteurs-là, s'ils sont réellement inspecteurs de l'enseignement, à quel moment ils tirent ces questions pour les livrer maintenant aux chefs d'établissement et permettre aux enseignants de répondre à la place des élèves. Si cette réalité existe, c'est qu'il y a toujours une fuite, et cette fuite est une antivaleur. Et surtout si elle se repose sur des responsables comme les inspecteurs et autres autorités scolaires. En tout cas, un inspecteur ne pouvait pas se comporter de cette manière-là parce que c'est l'inspecteur qui représente l'État au niveau des centres d'examen, c'est l'inspecteur qui représente l'État à l'intérieur, partout où les examens sont organisés, et c'est l'inspecteur qui représente le ministère. Alors, on souhaite que les inspecteurs puissent refléter des qualités de bons inspecteurs par rapport à la rigueur qui est attendue d'eux, que de pouvoir marcher dans les antivaleurs et puis après se caractériser par des comportements pareils, ça détruit nos enfants qui sont en compétition. Il faut que les inspecteurs comprennent que nos élèves là sont en compétition, il y a une compétition nationale et ce sont ces enfants qui sont aussi appelés à se comparer avec d'autres élèves, d'autres provinces et même d'autres milliers d'autres pays. Donc les antivaleurs ne nous conduisent pas, ne nous...
Vous... Voilà, je pense qu'il y a des auditeurs qui appellent. Alors, je n'arrête pas d'insister, s'il vous plaît, chers auditeurs. Il faut pas appeler à ce numéro 099-706-9941. Il faut seulement faire un voice. Vous nous faites un voice et puis on va vous passer sur nos antennes à l'exemple de Prosper qui nous a fait un voice hein, depuis l'île d'Idjou dans le sud Kivu. Et on va l'écouter.
Il faut lutter contre cela.
Voilà, on va écouter Prosper qui nous a fait un voice sur ce numéro WhatsApp, le 099-706-9941, depuis l'île d'Idjoui, dans le sud Kivu. On va écouter Prosper.
Bonjour, Radio Okapi. Je suis enseignant, professeur, Denis Mouguero, à Idjoui, à l'Institut. Les thématiques de vous décortiquer aujourd'hui, je les félicite beaucoup. Cependant que nous, les enseignants, qui interviennent beaucoup plus dans des classes de 4e année HTS, les ex-sujets années, avec le conseil de discipline, nous élaborons encore un nouvel horaire pour l'encadrement de nos élèves, afin qu'on ne puisse pas les abandonner. Parce qu'on se rend compte que, dès qu'on finit les examens de la fin de l'année, si on puisse les abandonner et les laisser partir à la maison, beaucoup ne peuvent plus s'adonner à des matières. Bien sûr, c'est un processus d'apprentissage. Maintenant, nous connaissons toujours à révéler de nos matières, du début jusqu'à la fin, avec des exercices liés aux travaux pratiques par groupe. C'est là, c'est un apprentissage qui nous donne beaucoup plus pour un peu soulager et voir avec cela qu'on peut marcher si ça peut aller. Deuxième élément. Vous allez rencontrer que beaucoup d'écoles au village évoluent sans manuel de leur et les autres n'ont pas quelquefois des programmes nationaux et pour y arriver, c'est un obstacle à franchir. Nous avons demandé à nos élèves parce que nous, ici, à Idjou, dans la subdivision Idjou 1 et Idjou 2, nous avons eu l'honorable qui est venu en secours, c'est Paulet le Parrain. Il a pris en charge les frais de participation aux examens de l'État. Cependant que nous avons demandé aux élèves de conjuguer plusieurs efforts, l'honorable Akil Miruho, Prosper, notre député national élu de la commission électorale, dit que nous saluons en passant de bien vouloir profiter de lui car il est venu en aide afin que nos respirateurs puissent intervenir en bonne et due forme. Je pouvais aussi esquiver un peu là où va les collègues car il dit que aujourd'hui, les élèves ne s'y donnent pas. Bien sûr, on peut le dire tout comme on ne peut pas le dire. Nous intervenons, moi je parle comme professionnel de la CRE. Quand nous introduisons notre cours ou nos leçons, nous devons nous fixer des objectifs, lesquels nous devons poursuivre du début jusqu'à la fin, parce que ce sont là des choses qui pourront nous conduire à une réussite effective. Voilà que nous sommes en train de les encadrer jusqu'au bout. Des examens, on les abandonne. Voilà un peu comment nous encadrons nos collègues, nos frères, nos jeunes, afin qu'ils puissent aller participer activement aux examens de temps. Bien sûr, ce n'est pas. Je veux dire qu'ils doivent demain briser la peur. Parce que beaucoup utilisent la peur comme leur arme. Et pendant cet exercice, beaucoup viennent et arrivent à échouer parce que c'était seulement la peur. Mais, c'est un apprentissage, c'est un exercice de soulagement qui ne peut durer que 2 heures, 3 heures à celui qui a mémorisé, qui a fait. De dispatcher dans des sous-groupes les candidats, ce n'est pas du tout un problème, comme le dit l'intervenant, le psychopédagogue. Bien, si vous pouvez raconter que vous avez une trentaine, quarantaine, cinquantaine, mais là-bas, il y a l'effort en mathématiques, l'effort en démographie, l'effort en géo, l'effort en psychologie appliquée, l'effort en histoire du travail, l'effort en législation. Vous prenez un groupe là-bas parce que, à défaut, l'enseignant peut avoir échoué à les faire entendre, mais il sera convaincu par son collègue qui a assimilé. Et voilà pourquoi nous les subordonnons toujours à des travaux pratiques et pareils à ce moment. Voilà un peu ma part de contribution que je pouvais vous envoyer à ce neutre moment. Je vous félicite, je félicite les intervenants et tous les co-débatteurs. Je vous avais dit que je suis toujours Dunia Mwigirwa, enseignant professeur à l'Institut Bihemb, intervenant des cours d'option à date de classe de 4e Yemani. Merci et bon après-midi.
Voilà, merci à cet enseignant qui de sa contribution en tout cas, il a réagi depuis l'île d'Idjoui dans le sud Kivu. Alors David Tamboué, on va conclure avec vous. Vous avez suivi cet enseignant qui a parlé, dit comment à leur niveau ils font pour encadrer les élèves finalistes et comment ils encouragent aussi les études en groupe hein, pour se préparer à l'épreuve aux épreuves de l'examen d'État et puis comment ils encouragent aussi certains élèves de travailler en groupe et puis certains élèves qui ont peut-être mieux assimilé certaines matières par rapport à d'autres ça permet lorsqu'on travaille en groupe d'essayer un peu d'aider ceux qui n'avaient peut-être pas bien assimilé la matière, en tout cas, de mieux comprendre et de mieux se préparer. Monsieur David Tamboué.
Oui, je félicite notre intervenant, comme il est technicien sur terrain. Bon, nous ne décourageons pas leur façon de travailler, mais ce que nous pouvons leur dire, jusqu'à quand on doit continuer à encadrer les élèves, parce que dans tout processus d'apprentissage, le temps de repos aussi existe. Et lorsque les élèves ont été formés, les enseignants qui ont donné ces matières-là dans les écoles se retrouvent dans les unités pédagogiques et dans les cellules pédagogiques. Alors, si un enseignant avait des difficultés à comprendre une matière avant d'aller transmettre, il aurait pu contacter son collègue enseignant à l'avance pour qu'il puisse comprendre ce qu'il va aller dire aux élèves. Et encadrer les élèves en groupe maintenant pour corriger les erreurs peut-être de transmission peut constituer un danger pour moi en tant que psychopédagogue, parce que maintenant là ce n'est pas un moment d'enseigner systématiquement, c'est un moment où les élèves doivent maintenant revoir. Nous sommes dans une période où les enfants doivent réviser, et ce qu'il faut faire, dire aux élèves, c'est d'éviter d'être très longtemps assis en train de faire la mémorisation, parce que lorsqu'on lit très longtemps sans stratégie, on aboutit à ce qu'on appelle le bourrage des crânes. Le temps de pause est nécessaire, et c'est pourquoi nous demandons même aux enseignants qui encadrent les élèves. Il est vrai, maintenant là, on ne sait pas sur quoi les enseignants vont simplement s'atteler. Celui qui vient encadrer les élèves, c'est un enseignant dans une discipline. Alors, le moment de rappeler ce qui est essentiel vient de passer. Le temps à passer avec les élèves dans la classe, c'est le moment où l'enseignant devait faire tout ce qui est nécessaire. Et ce que nous leur demandons maintenant, c'est d'encourager les enfants. Un groupe, nécessairement, doit être de moins de 6 jets. 8, c'est le maximum. Si un groupe va au-delà de 8 élèves, il faut comprendre déjà que il y a ceux qui ne pourront pas participer, il y a ceux qui ne pourront pas, parce que l'organisation des groupes a un objectif. Et dans chaque groupe, chacun devait avoir un rôle à jouer. Plus le groupe est grand, moins les participants, moins les membres participent à la discussion, même à la réflexion. Donc, nous sommes en train de penser que c'est bien d'organiser le groupe et de respecter les critères d'organisation des groupes. Et si vous avez un groupe d'au-delà, je pense que la participation va diminuer sensiblement. Et je vous encourage de pouvoir nécessairement les encadrer, mais tenir compte de la structure de groupe et sur quoi vous pouvez intervenir maintenant, parce que le temps est largement passé. Vous avez, les parents vous ont donné les élèves pendant toute l'année et vous devriez nécessairement profiter de ce temps prévu par le calendrier. Agir, travailler en fonction des objectifs, comme vous êtes en train de le dire, que tout enseignement se fixe sur des objectifs. Et maintenant, là, revoir les matières avec les élèves en fonction de ces objectifs-là. Mais pas les prendre jusqu'à la veille, et sinon les enfants n'auront pas un temps de repos et ça va entraîner une fatigue à leur niveau.
Voilà, merci
beaucoup. Voilà ce que je peux donner comme conseil.
Voilà, merci beaucoup à David Tamboué. Nous rappelons que vous êtes coordinateur. Avec vous, on a parlé de comment préparer la session de l'examen d'État édition 2022-2023. Bonne journée à vous.
Je vous en prie, merci.
Dire tout de suite, je vais le faire, c'est mon karma. Toi, je t'aime. Je pense à toi et à toi, rien qu'à toi, t'es mon âme sœur. Bébé Nana, je t'aime. Réagis, élargis ton cœur, montre-moi que je suis tout pour toi. Les gens de
de ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Dieu Donné Nyangasa qui est à la mise en onde. Merci à Tati Mapoko qui l'a réalisé et coordonné à la présentation. C'était Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.